Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez sur Radio Campus 106,6 FM comme chaque mercredi à partir de 16h le magazine intitulé Campus Lille Info. Un magazine donc qui vous présente un peu toutes les facettes de cette université lillois et éventuellement de ses partenaires, des labos qui y travaillent, de la recherche qui s'y fait, des études évidemment. Aujourd'hui on va parler recherche, on va parler de choses très très précises puisqu'on va parler de méthodes pour freiner, voire même bloquer les incendies, voilà, les feux. Et oui, comment reprendre le pouvoir quand la nature ou la maladresse humaine fait qu'on est pris dans un incendie. Voilà tout le sujet de cette émission d'aujourd'hui. Nous accueillons avec grand plaisir donc Serge Bourguibeau. Bonjour Monsieur Bourguibeau.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheur et vous travaillez au sein d'une unité matériaux transformation donc qui fait partie de l'ensemble du CNRS.
Oui, c'est ça, c'est une unité mixte université de Lille 1, CNRS, école de chimie et INRA.
Voilà, donc tout cela pour un domaine, ma foi, passionnant.
Oui, un domaine passionnant qui est celui de l'incendie ou des matériaux, plus précisément, de matériaux qui ne brûlent pas. Enfin, du moins, nous essayons d'empêcher qu'ils brûlent et, si possible, de créer avec ces matériaux des barrières contre le feu.
Est-ce qu'il existe des matériaux qui, naturellement, ne brûlent pas ?
Alors, des matériaux qui, naturellement, ne brûlent pas, oui. Alors, je vais prendre un exemple qui, souvent, n'est peut-être pas forcément connu ou on ne le prend pas comme exemple de matériaux qui ne brûlent pas, c'est le liège. Lorsqu'on regarde le liège, quand on essaye de brûler le liège, il met très 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 longtemps à se consumer. Et donc c'est l'un des matériaux naturels, puisque c'était l'objet de votre question, qui effectivement ne brûle pas ou qui met très très longtemps à se consumer.
Le bois, je présume qu'il est assez vite inflammable ou...
Alors, le bois, il est inflammable, bon, bien sûr, puisqu'on fait des feux de bois, donc je peux pas dire le contraire, mais lorsqu'on l'utilise dans la construction, le bois se met longtemps à se consumer, il charbonise, donc il fait une sorte de barrière naturelle. Alors, je ne dis pas qu'il va pas brûler et que le bâtiment ne va pas s'écrouler, mais il a quand même une certaine résistance à l'incendie. La dangerosité du bois, c'est qu'ensuite, il maintient une certaine incandescence et quelques heures plus tard, voire même plusieurs jours plus tard, eh bien, le bâtiment va pouvoir s'effondrer parce qu'il va se consumer de l'intérieur. Donc, ça peut être dangereux parce que ça ne se voit pas.
Après, il y a d'autres matériaux qui prennent des formes bizarres, étranges à la chaleur.
Alors, des matériaux qui prennent des formes étranges, bizarres à la chaleur, oui, puisqu'on travaille, alors si on parle de formes étranges, on travaille sur des matériaux qui vont s'expandre, donc qui vont gonfler un peu comme le soufflet au fromage que vous pouvez faire dans votre cuisine. Ce soufflet qui aurait brûlé ou qui aurait été un peu trop longtemps au four, ben ce sont ce type de matériaux qu'on qualifie d'intumescents et qui, eux, vont se déformer et vont former une barrière au feu, et qui vont donc protéger le substrat de l'incendie.
Donc voilà une technique. On peut parler aussi de l'inifugation ou quelque chose comme ça ?
Alors le mot est inifugation, donc qui veut dire protéger du feu ou qui est difficilement inflammable. Alors ça voudrait dire qu'il ne brûle pas. Bon, après tous les matériaux brûlent, mais ceci dit, oui, on parlera d'inifugation.
Est-ce qu'il y a des matériaux, voire des objets chez soi ou qu'on voudrait acheter et qu'il vaudrait mieux éviter d'acheter ?
Ah, alors ça c'est... Si on raisonne simplement incendie, je vais dire les plastiques, s'ils ne sont pas traités contre le feu, peuvent brûler. On prend un petit bout de plastique d'une cafetière, par exemple, un petit coup de circuit dedans, si c'est pas traité anti-incendie, ça peut brûler. Vous avez, si vous prenez votre fauteuil favori, il y a quelques trous dedans, la mousse, ça peut brûler très vite. Et ça peut être aussi libéré des fumées toxiques. Donc il faudrait mieux éviter, effectivement.
Est-ce qu'il y a des produits, des substances ou des objets qui ont été autorisés et qui sont maintenant interdits justement pour ces risques d'incendie ou de favoriser des incendies ?
Alors ça dépend lesquels. Maintenant, on va peut-être pas travailler que sur l'interdiction du matériau, mais plutôt sur son traitement. À savoir, on prend un plastique. Maintenant, il y a des normes, des contraintes de plus en plus sévères qui vont. Donc la législation fait que les normes deviennent sévères et on va essayer de le traiter de telle manière à ce que dans le scénario dans lequel pourrait se produire l'incendie. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Par exemple, les boîtiers électriques. Les boîtiers électriques, ils peuvent être soumis à un court-circuit. Donc, on traite les matériaux lorsqu'il y a un court-circuit, s'il devait se produire, celui-ci va s'autoprotéger et ne va pas s'enflammer, donc ne va pas propager le feu.
Alors Serge Bigot, on va parler aujourd'hui d'un concept, le Firebar Concept.
Voilà, alors Firebar Concept, c'est le nom du projet. Hein. Je vais peut-être parler avec des mots vulgaires, je veux dire c'est de la conceptualisation de barrières anti-feu. Alors, pourquoi on parle de conceptualisation de barrières anti-feu ? Tout simplement, le but du projet, c'était de se dire, bon d'accord, ok, on a des matériaux, il y en a certains qui brûlent, certains qui ne brûlent pas, bon, soit. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'élaborer une théorie, pour être un peu prétentieux, essayant de poser les différents concepts pour éviter que le matériau brûle ? Alors. Bon, d'accord, donc ça c'est ce qu'on va essayer de développer, de faire. Et donc le but ultime du projet, c'est de se dire, eh bien, le matériau doit réagir de manière intelligente au stimulus thermique. C'est-à-dire que le feu qui vient d'une bougie ou le feu qui vient d'un réacteur dont les réservoirs ont pris feu dans un avion, eh bien, le stimulus thermique n'est pas du tout le même. Et donc le matériau, évidemment, pour se protéger, devra évidemment développer des barrières qui ne sont pas identiques.
Alors, on voit dans certains hôtels, à l'étranger notamment, j'étais même étonné de voir ça en Chine, dans les hôtels, il y a énormément de points de contrôle de la fumée qui pourrait se dégager d'un seul coup. Et il y a des systèmes qui permettent peut-être, au-delà de ces moyens de contrôle, de réguler les choses. Est-ce qu'en France, avec le détecteur d'incendie qui a été rendu obligatoire, je pense, par les assurances récemment, on a aussi, au-delà de ça, des applications qui, au-delà de détecter... peuvent aussi mettre en place des contre-feux, pour le coup.
Alors, en France, on n'a pas la même législation, autant que je sache. En France, maintenant, on a les détecteurs de fumée qui permettent d'avoir une alarme. Si on compare, par exemple, alors aux États-Unis, où là, ils sont peut-être un petit peu plus proactifs en termes de protection active, à savoir ils ont des sprinklers, donc des petites douchettes qui vont se déclencher lorsqu'on détecte un incendie. Donc, alors qu'en France, on ne va pas beaucoup travailler dessus. On n'utilisera pas beaucoup ce genre de méthode. On essaiera plutôt d'avoir une législation qui évite la prise au feu ou le début d'un incendie et la propagation d'incendie. Bon, aux États-Unis, on couple un peu ces deux approches-là.
Beaucoup de gens bricolent, et de plus en plus, parce que les spécialistes coûtent cher quand il faut faire venir quelqu'un pour faire des travaux d'intérieur. Mmh. Et les gens bricolent et installent des choses chez eux. Est-ce qu'ils ont bien conscience des risques de ce qu'ils mettent à la place des professionnels ?
Alors, en termes de tenue incendie, je ne pense pas. Je ne pense pas. Lorsqu'on travaille dans le domaine, on y est très fortement sensibilisé. Je pense que les gens qui travaillent dans le domaine de l'incendie, de manière très générale, que ce soit pompiers, dans les assurances et autres, peut-être qu'ils sont aussi plus sensibilisés. Les gens qui sont un petit peu loin de ces préoccupations-là, je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte ce type de facteurs.
Est-ce que les professionnels, je parle des gens qui travaillent dans le bâtiment ou dans les aménagements intérieurs, ont des formations justement à ces problématiques d'incendie ?
Alors je ne sais pas. pas s'ils ont des formations. Je pense que les professionnels doivent avoir certains types de formations. De toute manière, il existe des normes, des réglementations. Et donc, tout professionnel doit respecter la réglementation. Donc, à partir du moment où l'incendie ou l'antifeu fait partie de la réglementation, ils doivent respecter ce genre de choses.
Je suppose que les incendies ont des origines très diverses et le problème, c'est qu'on ne s'attend pas forcément d'où va venir le problème.
Oui.
Il y a des incendies qu'on peut voir arriver de loin et d'autres qui sont tellement à proximité de nous, par exemple, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, supposons un incendie qui prend dans un grand espace, je veux dire un champ qui brûle ou quelque chose comme ça. Autrefois, il y avait des techniques pour éventuellement faire des zones tampons qui évitent au feu de se propager dans les forêts ou dans les endroits où il y avait des cultures, le blé ou autre. Est-ce qu'on a encore des évolutions qui se font, des principes? Est-ce que les pompiers aussi veillent aux choses?
Alors bon, il y a on parle beaucoup de feux qui se déclenchent dans le sud de la France, où là effectivement on essaye de désherber, on essaye de faire des chemins pour essayer de couper la propagation de l'incendie. On va surtout travailler sur la propagation de l'incendie. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on va travailler aussi sur la prévention parce que bon le feu peut venir de n'importe où. Donc comme on le dit, hein, d'un mégot, de bouts de verre qui pourraient mettre le feu. Donc ça, c'est déjà une seconde chose. Ensuite, les pompiers, on va plutôt travailler dans ces cas-là à travailler sur l'extinction, si malheureusement il y a un départ de feu, pour être le plus efficace possible. Donc avec des moyens d'extinction de l'incendie qui soient de plus en plus performants.
Donc ces barrières de feu dont vous êtes le spécialiste ou l'un des spécialistes dans ce laboratoire, comment fonctionnent-ils? Où se met-il en place? Dans quelles conditions on peut le disposer pour que ce soit utile?
Alors, y a plusieurs choses parce que bon, on travaille beaucoup. Il y a la réglementation. Alors, j'insiste toujours sur la réglementation qui impose un peu les directives. Mais bon, la réglementation est né de retour d'expérience. Donc cette réglementation où c'est comment nous on va travailler sur ces barrières anti-feu. Alors on va soit les mettre directement dans le matériau, c'est-à-dire qu'on va traiter le matériau de telle manière à ce que lorsqu'il est soumis à une source de chaleur, il ne prenne pas feu. Ça c'est déjà une première chose. Ou alors on va faire des traitements par peinture ou par des dépôts qu'on va poser sur des substrats. Un exemple, je vais dire, assez qui ne saute peut-être pas forcément aux yeux des personnes, à savoir l'acier. L'acier, on va vous dire, ça brûle pas l'acier. On a beau y aller, de toute manière, avec une torche, ça a pas brûlé. Effectivement, ça ne brûle pas. Mais la problématique, et ça c'est la problématique des bâtiments, vous avez les structures en acier, eh bien on va les protéger de l'incendie. Alors pourquoi les protéger de l'incendie? Tout simplement parce que lorsque vous avez un feu, les températures atteintes dans les pièces sont facilement, on atteint facilement entre 800 et 1100 degrés, donc des températures très élevées. Évidemment, s'il y a des personnes humaines qui sont là, de toute manière, ils passent de vie à trépas très, très rapidement. Et donc, le problème de ces matériaux, c'est de ces matériaux de structure, eh bien, lorsqu'ils dépassent une certaine température, lors de 500-550 degrés, ils vont perdre leur propriété de portance, leur propriété mécanique va complètement se dégrader et le bâtiment va s'effondrer. Donc évidemment, il faut éviter ce genre de choses. Donc on va le protéger par des peintures qui vont s'expanser, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui vont s'expanser et qui, justement, vont permettre de ralentir la propagation de la chaleur jusqu'à l'acier et qu'il atteigne ses températures critiques à un temps le plus long possible.
Alors, je me souviens à une certaine époque d'un film voilà, qui s'appelait La Tour Infernale. Est-ce que vous avez vu ce film ?
J'ai vu ce film, effectivement, oui.
Donc un film catastrophe, hein, un grand immeuble qui prend feu. Est-ce que pour vous, il est crédible ? Et pour le réaliser, est-ce qu'on fait appel, par exemple, à des chercheurs qui permettent d'étayer le film dans son argument et aussi dans son déroulement ?
Alors, ce film-là, je l'ai vu, mais bon, j'avoue que j'avais quelques années moins. Bon, ça fait une bonne vingtaine d'années que je l'ai vu, voire plus même. Donc, je me souviens plus de tous les détails. Avec les souvenirs de mes yeux de l'époque, il m'avait apparu comme crédible. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on fait appel à des pompiers, on fait appel à des spécialistes de l'incendie pour créer ces films. Donc là, oui. Donc, ça paraît crédible.
Est-ce qu'un film, une fois qu'il est sorti, ça donne éventuellement des moyens nouveaux aux laboratoires qui veulent se créer pour résoudre ce type de problème ?
Non, alors là, faut pas rêver. c'est pas parce qu'il y a un film d'une grosse production d'Hollywood qu'on va avoir des moyens supplémentaires. Malheureusement, ce qui peut nous donner des moyens supplémentaires, mais évidemment, c'est ce que l'on ne souhaite pas, c'est que s'il y a des accidents graves, ça peut, je dirais, nous donner des moyens supplémentaires. Mais alors là, évidemment, c'est absolument à ne pas souhaiter.
Alors c'est vrai que quand il y a un accident grave, on est dans l'urgence. Là, vous êtes plutôt dans la prévention.
Oui, tout à fait. On est dans la prévention. On est là pour essayer de trouver des solutions innovantes. Et des solutions qui soient pérennes et qui, à terme, soient utilisables dans la vraie vie.
C'est important, l'activité de l'unité matériaux et transformation de l'UMR CNRS 8207.
Alors, l'unité matériaux et transformation, en fait, c'est à peu près 200 personnes. Mmh. Et donc, il faut savoir que l'on est... donc, nous, dans le groupe, on est 9 permanents et on a à peu près... je vais dire, allez, une vingtaine de personnes qui travaillent en tant que doctorant, post-doctorant ou stagiaire. Donc l'activité est importante au sein du MET. Ça ne veut pas dire que les autres ne soient pas importantes aussi. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de reconnu et on a beaucoup de partenariats industriels.
Donc effectivement, ces partenariats industriels, ils vous proposent de faire des recherches dans des domaines bien ciblés ou...
Alors, ils nous proposent de faire des recherches dans des domaines ciblés. Un exemple, quand on travaille avec Airbus, on regarde le comportement au feu des matériaux composites utilisés dans les avions. Pourquoi ? Parce que, comme j'aime à le dire, les avions maintenant, c'est 50% en plastique, 50% en autres matériaux. Donc évidemment, c'est d'intérêt de travailler sur ce type de matériaux et d'essayer de modéliser un peu tout ce comportement et de comprendre comment ça se comporte.
Alors c'est vrai, quand on pense à un avion qui brûle, on se dit là c'est vraiment foutu. Mais j'ai vu aussi des bus brûlés et les gens dedans également, quoi. Donc on s'y attend moins.
On s'y attend moins et c'est alors la problématique du transport routier, c'est que on estime que comme c'est sur Terre, comme il y a des portes, on peut évacuer rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la réglementation ou les matériaux qui sont utilisés ou les conceptions sont moins résistantes au feu que dans les avions où tout est beaucoup plus contrôlé et les normes sont beaucoup, beaucoup plus sévères.
Donc là, on a parlé de ce qui volait, aussi de ce qui roulait. Et puis, il y a aussi les boîtes de nuit qui brûlent régulièrement.
Oui, alors là, malheureusement, ça arrive. Là, il faut utiliser des matériaux qui soient inifugés un peu partout. Donc c'est pas toujours le cas, c'est pas forcément bien fait et donc il y a une propagation d'incendie. Après il faut aussi beaucoup travailler sur les évacuations. Faut pas oublier qu'il y a l'aspect je vais dire matériaux, barrières, mais aussi l'aspect évacuation où les gens doivent pouvoir partir, évacuer le plus rapidement possible.
Oui, et puis des personnels qui soient un petit peu formés sinon entraînés.
Oui. Des gens qui savent quoi faire et qui ne paniquent pas dans quel incendie aussi. C'est fondamental.
Voilà, donc je suppose que vous pouvez également, en tant que labo, donner des indications pour les nouveaux matériaux, pour comment les mettre en œuvre, comment les sécuriser, et puis aussi former des gens qui voudraient se préoccuper de ces problèmes, justement, d'incendie.
Oui, alors effectivement, on reçoit beaucoup d'étudiants de par notre métier. Déjà, on est enseignant-chercheur, donc on est au contact d'étudiants, on reçoit des étudiants allant du niveau bac plus 2 jusqu'à bac plus 8, puisqu'on forme des doctorants, voire plus, puisqu'on a des post-doctorants. Et donc, on les forme au métier de l'élaboration des matériaux ignifuges, un petit peu d'incendie. Et généralement, tous les gens qui sont passés par le laboratoire, en particulier les doctorants, puisque c'est ceux qu'on suit le plus longtemps, ou post-doctorants, trouvent un emploi dans l'industrie, que ce soit en France ou à l'étranger, et relativement facilement.
Est-ce que vous avez en tant que labo des attentes particulières par rapport justement soit des recrutements, soit des partenariats ?
Alors, au niveau des recrutements, on recrute des gens qui viennent principalement du domaine de sciences des matériaux. Bon, c'est un recrutement qui marche bien, mais aussi des gens qui viennent d'autres formations, de physique, de thermique. On essaye d'élargir et d'avoir un recrutement qui soit pluridisciplinaire, puisque notre discipline est par essence même pluridisciplinaire.
Vous êtes en attente de personnel ?
En attente de personnel, ça c'est un peu la question qu'on pose, aux fonctionnaires en disant est-ce que vous voulez toujours des postes ? Moi je vais dire, les postes, d'avoir des permanents, c'est toujours bien. C'est plus on en a, mieux c'est. Mais c'est un discours qui est pour moi trop facile. Moi, ce que je dis, c'est que, OK, on a besoin de gens compétents, d'une équipe qui soit soudée. Donc ça, c'est ce que j'ai la chance d'avoir. Mais si on a besoin de personnes, eh bien, on a encore la possibilité de l'embaucher, de les embaucher en CDD. On peut aller jusqu'à 6 ans, voire en CDI si on arrive à trouver les fonds. Donc c'est aussi à nous de nous bouger pour trouver les fonds. C'est pas d'être attentiste en disant l'État-providence doit toujours tout nous donner.
Est-ce qu'en tant que labo, vous publiez des travaux de recherche ?
Oui, on publie nos travaux de recherche. On publie relativement souvent dans des revues techniques dédiées. On publie aussi parfois dans des revues dites de vulgarisation pour essayer de montrer ce que l'on fait au grand public.
Et les prochains grands projets auxquels vous vous attaquez, enfin, si vous voulez bien les révéler ?
Alors bon, le grand projet, déjà, c'est celui de Firebar. Déjà, ça va m'occuper pendant au moins 5 ans, puisque c'est le financement est de 5 ans. Après, on a des projets qui sont encore un peu confidentiels pour que je puisse en parler. Mais on va continuer à travailler de toute manière à améliorer la sécurité dans le domaine des matériaux et de la tenue au feu des matériaux.
Donc un labo comme le vôtre, est-ce qu'il en existe d'autres en France ? Combien ? Et à l'étranger, pourquoi pas ? En Belgique, est-ce que vous êtes en lien, en liaison ?
Alors, dans la communauté, on se connaît quasiment tous. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal de personnes dans la même communauté. Maintenant, au niveau français, au niveau académique, je vais dire qu'il y a deux autres laboratoires en France qui travaillent un peu dans les mêmes domaines que nous, qui couvrent pas les mêmes aspects, qui couvrent pas tous les aspects du retard au feu. Notre particularité, c'est de couvrir vraiment un très large spectre dans le domaine de la réaction et résistance au feu des matériaux. Donc c'est un peu notre particularité par rapport aux autres laboratoires. Maintenant, il existe des groupes en Allemagne, en Italie, en Angleterre, qui sont relativement actifs. En Belgique, il n'y a pas de laboratoire dédié au feu. Il y a des gens qui font du feu. Bon, par exemple, à l'Université de Mons, ils font du feu. Ils font de l'évaluation des propriétés retard au feu. On travaille aussi en collaboration avec eux. Liège, Louvain-la-Neuve, on en font aussi un petit peu. On travaille aussi en collaboration avec eux. Et on travaille aussi en collaboration beaucoup avec les Chinois, puisque aussi ils sont très actifs dans le domaine.
Est-ce que l'ensemble des structures de recherche dans ce domaine couvre l'ensemble du champ possible de la recherche dans ce domaine, ou est-ce qu'il y a encore des trous, voire des choses pour étendre votre action, votre activité ?
Ah, c'est pas facile d'y répondre. Disons que quand on regarde les activités des groupes, on arrive à couvrir quasiment tous les domaines. Alors tous les domaines, maintenant, après, À nous d'inventer les nouvelles directions et de voir ce dont on aurait besoin, ou les compétences qu'on devrait apporter pour pouvoir mener à bien nos projets.
Vous parliez de la Chine tout à l'heure. Est-ce que c'est un pays pour vous partenaire intéressant? Comment vous envisagez des partenariats justement?
Alors, les partenariats avec la Chine, on a terminé d'un projet où c'était un projet bilatéral avec l'université de Pékin. On a travaillé pendant 3 ans avec eux, on a eu des doctorants en commun. Donc la Chine est un pays qu'on ne doit pas négliger. C'est un pays qui a fortement mûri scientifiquement, qui maintenant arrive à former des chercheurs de plus en plus brillants au niveau scientifique. Même si, il y a encore des lacunes, parce que, il y a un effet de masse, donc effectivement, on a des chercheurs qui sont brillants, d'autres un peu moins bien, mais ils ont su mettre les moyens dans le domaine, et mettre des moyens énormes, et comparativement à nous, ils ont des moyens qui sont nettement plus élevés, surtout en termes de personnes. Un groupe comme le mien en Chine, c'est 100 personnes au lieu d'être une trentaine.
Voilà, et combattre en commun les incendies, ma foi, c'est un beau projet international.
Tout à fait, oui. Faut le mettre en musique.
Merci beaucoup, Serge Bourg-Bigot.
Merci.